c'est Jésus que je suis sauvé. Je dois faire une démarche personnelle. Il doit y avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Et tout change. Et on s'aperçoit qu'on n'est plus esclave des doctrines et fausses doctrines des hommes ou de systèmes religieux, mais nous sommes libérés par Jésus. Alléluia. Et pour tout cela, on a la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, je voudrais qu'on puisse maintenant ouvrir la bonne parole du Seigneur. Et on va aller dans le livre des Actes des Apôtres, si vous voulez bien. Vous êtes toujours là ? Amen. Vous savez ce qu'on va faire avant de lire ? On va prier. On va encore demander au Seigneur de nous bénir. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour Seigneur, ta parole que nous allons ouvrir. C'est un privilège. Seigneur, nous savons que dans certains pays, c'est extrêmement compliqué, Seigneur, de posséder la parole de Dieu. Seigneur, certains s'exposent, Seigneur, même lorsqu'ils se rassemblent, Seigneur, à des sévices, Seigneur, à des emprisonnements, à, Seigneur, toutes sortes d'exactions. Mais Seigneur, nous sommes dans ta maison, sommes dans un pays de liberté, nous te rendons grâce, continue de bénir ce pays. Seigneur, de nous accorder cette liberté de réunion. Mais Seigneur, bénis nos frères et nos sœurs, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et puis, Seigneur, bénis également, Seigneur, ce moment que nous allons passer ensemble. Seigneur, que ta parole puisse fortifier notre foi et nous permettre d'avancer avec toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je voudrais aborder ce thème que j'ai intitulé « Victoire sur les souffrances ». Victoire sur les souffrances. Et dans le livre des Actes, au chapitre 1er et au verset 1er, nous allons lire les 8 premiers versets. Et il est écrit ceci. Donc, le livre des Actes des Apôtres, c'est la suite de l'Évangile selon Luc. Et l'écrivain, si vous le voulez, c'est Luc, voilà, sous l'inspiration du Saint-Esprit qui écrit. Et il a adressé... Donc, si vous voulez lire l'Évangile selon Luc, et quand vous êtes arrivé à la fin de Luc, vous voulez savoir la suite, ben vous lisez les Actes des Apôtres. Et c'est toujours adressé à la même personne, un certain Théophile. Théophile, ça veut dire celui qui aime Dieu. Ben, vous aimez Dieu ? Alléluia. Ben, vous voulez savoir ce que le Seigneur a fait ? Alors, on lit Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre, l'Évangile, selon Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Seigneur avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et puis, je voudrais lire un autre passage dans les Actes. On lira plusieurs textes de la parole de Dieu ce matin, mais notamment celui-ci. Donc, après qu'il y ait eu la Pentecôte, après que le Seigneur soit monté au ciel, qu'ils aient reçu donc le Saint-Esprit, les disciples obéissent et répandent la bonne nouvelle. Et voici un des épisodes auxquels prend part Pierre et les apôtres qui répondirent, ils sont menés en jugement par rapport au fait qu'ils diffusent le beau message de l'Évangile. Et Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. » Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et nous allons au verset 40, il nous est dit, « Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges de bâtons et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. » Donc vous avez remarqué que ce texte est extraordinaire parce que le Seigneur envoie ses disciples. Il leur dit qu'ils ne seront pas seuls parce qu'ils auront avec eux la puissance du Saint-Esprit qui va les accompagner pour eh bien, témoigner du Seigneur. Et on trouve quelque chose quand même qui nous surprend, c'est que tandis qu'ils sont en train de servir le Seigneur, ils disent « Mais vous nous dites eh bien, qu'il faut arrêter, qu'il ne faut pas prêcher au nom de Jésus, mais nous on va continuer à le faire parce qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On n'est pas en train de faire dérailler des trains, de mettre des bombes, on n'est pas des fanatiques, on veut le bien du pays, mais on ne peut pas ne pas parler de Jésus, alléluia, du Sauveur, de ce qu'il a fait pour nous. C'est le mandat de l'Église, amen, alléluia. » Est-ce que nous en sommes bien conscients, mes frères et sœurs ? Que nous avons reçu un mandat, c'est de faire connaître l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia ! Tout pouvoir a été donné au Seigneur, il règne, il a vaincu Satan, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il est le libérateur, amen ! Et il nous envoie afin que nous puissions répandre cette bonne nouvelle à quiconque eh bien, est capable de l'entendre. Et je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, même si tu n'as pas reçu un ministère d'évangéliste, même si tu ne t'appelles pas Billy Graham, capable de parler à 10 000 personnes, d'amasser des... Vous savez, il y a des gens qui ont reçu de la part du Seigneur un ministère extraordinaire. Je voyais récemment un reportage sur ce frère qui était un évangéliste extraordinaire, Billy Graham, peut-être certains ont eu le bonheur de l'entendre, mais c'est un homme de Dieu formidable. Et dans ce documentaire, il explique que la première fois qu'il a prêché l'évangile, un dimanche matin dans une église telle que celle-ci, il a fait un appel, 11 personnes se sont levées, ils s'en souvenaient des années plus tard, et il a compris une chose, quand j'appelle les gens à venir à Jésus, ils répondent. C'était un don que Dieu lui avait donné, alléluia, c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Et je voudrais te dire ceci, même si tu n'es pas eh bien, Billy Graham, même si tu n'es pas le grand évangéliste, néanmoins, tu es sur cette terre pour amener des âmes à Jésus. Alléluia, amen. Et même un pasteur, même un docteur doit avoir cette vision du salut des âmes, alléluia. L'apôtre Paul dira à Timothée, « Toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Il semble que Timothée, c'était plutôt un pasteur, un serviteur de Dieu qui amenait la paix dans le troupeau, mais Paul lui dit ceci, « Fais l'œuvre d'un évangéliste quand même, n'oublie pas de prêcher l'évangile, alléluia. » J'ai pu rencontrer un serviteur de Dieu qui me disait ceci, tu sais, je ne suis pas un évangéliste, et il est parti dans la gloire, un frère qui a compté au milieu de nous. Il disait, mais moi, moins évangéliste que moi, voilà, c'est quelque chose. Mais partout où j'étais, j'ai prêché l'évangile, en simplicité, j'ai annoncé Jésus, la repentance, la croix, il y a toujours eu des hommes qui se sont convertis, alléluia, parce que le Seigneur a appuyé son message, alléluia, et nous voulons le bénir, amen, pour cela. Et donc tout cela pour dire que, eh bien, nous sommes appelés à entrer dans cette mission, à faire découvrir eh bien, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mais nous comprenons, comme ces hommes, eh bien, que nous nous exposons, et peut-être certains d'entre nous, eh bien, peut-être même des jeunes eh bien, marchant dans la foi, des jeunes hommes, des jeunes femmes, ou peut-être des jeunes dans la foi, eh bien, vous qui êtes jeunes dans la foi, vous êtes en train de vous rendre compte qu'il y a de l'opposition. Il y a parfois même une forme d'agressivité lorsque vous parlez de Jésus, vous mettez eh bien, en évidence votre foi. Eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on a lu dans ce texte. C'est que quand même, tandis que Pierre et les autres parlent de Jésus, disent qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, on veut pas dérégler la société, mais on veut amener eh bien, à la connaissance de chacun que le salut existe, que Jésus a donné sa vie, eh bien, on dit, mais taisez-vous, sinon on vous frappe, ben nous, on ne se taira pas, et on continuera de parler du Seigneur, et on va même prier pour vous, voilà, parce qu'on vous aime, oh, on va les bastonner, c'est écrit, hein, on va les bastonner, on va les frapper, et Patrick t'aurait aimé être là-dedans, voilà, et une fois qu'ils ils ont été passés à la lessiveuse, la Bible nous dit, oh, ils sont tout tristes. Ils sont, mais alors, mais vraiment, il faut qu'ils, non. Mais il s'est passé quelque chose, c'est qu'il nous a dit, mais ils se retirèrent joyeux d'avoir été jugés dignes de subir eh bien, les outrages pour le nom de Jésus-Christ. Il dit, mais merci Seigneur, gloire à Dieu, on est heureux Seigneur, parce que maintenant, on sait dans quel camp on est dans le bon camp. On est dans le camp eh bien, du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Alléluia. Et au lieu de les affliger, eh bien, ces hommes ont été rendus joyeux. Et je suis convaincu que là, il y a une action puissante du Saint-Esprit. Ce n'est pas autre chose. Quelque chose de surnaturel qui te dit, mais écoute, tu es dans le bon camp, tu as choisi le bon parti, et au contraire, au travers eh bien, de tes souffrances, tu manifestes que Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que je voudrais eh bien, que nous puissions comprendre que le Saint-Esprit et l'action du Seigneur dans nos vies eh bien, amène une victoire sur les souffrances. On ne peut pas empêcher les souffrances d'arriver. Je ne peux pas vous dire, chers frères et chères sœurs, que vous ne rencontrerez pas de souffrances. Si on vous l'a dit, permettez-moi de vous dire qu'on vous a menti. Au bas mot, on vous a trompé, on ne vous a pas tout dit. Mais l'Écriture nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, il faut vraiment faire attention à cela. Voilà, vous avez le plan. Donc, on veut comprendre cela. Alors, tout d'abord, mon premier point, voilà, c'était celui-ci, c'est la victoire dans les souffrances du Seigneur. Jésus a souffert. Dans le texte que nous avons lu, et j'ai fait exprès de le lire, il nous est dit ceci au verset 3, « Après qu'il eut souffert, après que Jésus eut souffert, il aura paru. » Il n'est pas dit « après que Jésus soit mort ». Une certaine traduction le dit, mais ce n'est pas ça. Le mot, c'est « après qu'il eut souffert ». Et si on fait la liste des souffrances de Jésus, elle est longue. Jésus a été... Alors, il y a les souffrances psychologiques, il y a les souffrances spirituelles, il y a les souffrances physiques, les clous, la couronne d'épines, mais je voudrais en citer quelques-unes. Jésus a été incompris. Je ne vais pas lire toutes les références, hein, mais il a souffert l'incompréhension, le mépris, homme méprisé, hein, voilà. Il a souffert le rejet de la part même des siens, de sa propre famille et de son propre peuple. L'ingratitude. Mais il n'y a que ce Samaritain qui est venu pour rendre gloire à Dieu. Vous vous souvenez, les 10 lépreux, voilà. L'ingratitude, la violence de la crucifixion, l'abandon, il a été abandonné des siens, le reniement, l'apôtre Pierre, quand tous t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas, mais il le renie, l'humiliation, l'angoisse, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Souvenez de tout cela. La trahison, Judas qui le trahit, c'est terrible la trahison. On n'est jamais trahi par un ennemi, on est trahi par un ami. Voyez, c'est et la solitude de la croix, plus le poids de nos péchés dont il s'est chargé à la croix du calvaire, sans compter les tourments certainement de l'âme dans l'âme du Seigneur, tandis qu'on lui disait, bah si tu es le Christ, descends de la croix. Ça c'est la voix du diable, parce qu'il savait le diable que pour que nous soyons sauvés, il fallait qu'il aille jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix, traité comme un coupable. Il est l'agneau de Dieu qui prend nos péchés. Alléluia. Et donc. Si nous voulons le sonder, eh bien, les souffrances du Seigneur sont innombrables. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous apercevons, par exemple, dans l'Évangile selon Luc, et je l'ai noté au chapitre 24 et au verset 26, il nous est dit, eh bien, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, qu'il entra dans sa gloire? Et au verset, je reprends également au verset 46, eh bien, de Luc toujours, il nous est dit... Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait le troisième jour. Jésus met en avant ses souffrances. Alors vous allez me dire, ah ben c'est triste hein, ça. Pasteur, ce matin, vous ne nous encouragez pas. Hein. Vous nous dites que le Seigneur est triste, pardon, le Seigneur n'est pas triste. Mais vous nous dites que le Seigneur a souffert, que ses souffrances, elles sont là. Il y a de quoi nous plonger le moral dans les chaussettes. Là, ce matin. Mais je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que savoir que Jésus a souffert, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour toi. Alors, je voudrais qu'on lise un autre texte. Vous êtes d'accord? On va dans le livre des Actes des Apôtres. On va rester dans le livre des Actes. Et on va dans Actes au chapitre 8. Et regardez ceci. Actes, chapitre 8. Et il nous est parlé d'un homme qui est eunuque. Il a une bonne situation, il est ministre des Finances, c'est un homme éduqué, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme intelligent, c'est un homme pieux. Mais enfin, en se rendant en pèlerinage à Jérusalem, il n'a rien compris. Et il lit la Bible, et il cherche Dieu. Et il lit un texte de la Bible qui est J'allais dire, il y a des textes de louange, il y a des beaux textes dans la parole de Dieu, mais ce texte-là qu'il lit, c'est pas le plus facile à lire. Et pourtant, c'est celui-là qu'il lit. Et il nous est dit ceci, tandis que un chrétien s'approche de lui, au chapitre 8, verset 29, « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut, il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci, c'est Ésaïe 53. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche, dans son humiliation, son jugement a été levé, sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. » Et l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Je vous ai dit que c'était une bonne nouvelle. Pourquoi ? Excusez-moi si je tousse, j'ai toujours ce chat dans la gorge. Mais parce que cet homme-là, il ne comprend pas le sens de sa vie. C'est un eunuque, je ne vais pas entrer dans certains détails, mais c'est un homme qui a été pris alors qu'il était enfant, qui a subi une certaine opération pour qu'il ne puisse pas se marier et qu'il ne puisse pas avoir d'enfant. Et on faisait cela à certains enfants pour éviter que lorsqu'ils deviennent adultes, qu'ils fomentent des complots. En fait, ne pouvant pas se marier, ne pouvant pas avoir d'héritier, eh bien, ils ne pouvaient pas entrer dans des coups d'État pour renverser le roi et établir une nouvelle dynastie, par exemple. Ah, il était riche, ah, il avait des honneurs, mais en réalité, sa vie sur la terre, c'était comme un passage, comme du vent, et il ne laisserait rien après lui, pour personne. Et peut-être, bien se disait-il, mais à quoi ça sert de vivre ? À quoi ça sert ses honneurs ? À quoi ça sert ? Et puis, il lit dans la parole de Dieu, ce texte que vous avez lu là, il est comme un agneau muet. Mais moi aussi, j'étais comme un agneau muet. Moi, je n'ai pas choisi. C'est injuste que j'ai subi. Et ici, dans ce texte, son jugement a été levé. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas rendu justice. Ce n'est pas juste ce qui est arrivé au Seigneur. Il s'est laissé faire. Il était comme une brebis muette devant celui qui le tond. Ça va surprendre Pilate qui dit mais il ne se défend pas. Mais oui, parce que le Seigneur veut aller jusqu'à la croix. Il veut payer le prix de la dette pour toi, pour moi. Et là, lorsque cet homme lit, eh bien, ce qui se passe, mais il y a un vis-à-vis. Il y a enfin quelqu'un qui comprend ce qui se passe dans son cœur. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une bonne nouvelle que Jésus ait souffert. Il est non seulement mort, mais il a souffert pour toi. Alléluia. Et il peut comprendre tes douleurs, tes souffrances, même les plus intimes comme celle-ci. Mais de qui parle-t-on ici ? Et lui, il dit, mais c'est la bonne nouvelle de Jésus. Jésus a connu toutes les souffrances, tout ce qui est capable de nous faire mourir, de nous faire périr, de nous séparer eh bien, du plan de Dieu, que ce soit le péché, la souffrance, l'iniquité. Mais il a tout porté en son corps à la croix, ton péché, ta maladie, les injustices, il les a subies afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Alléluia, amen. Et il veut te dire ceci, et c'était très bien dit par notre frère, et je l'en remercie, Jésus est ressuscité, il a établi un royaume qui n'est pas de cette terre, mais qui est éternel. Mais il dit, un royaume qui est éternel, mais moi je cherche un royaume, je suis riche comme Crésus, mais ça, à quoi ça me sert ? Je suis malheureux, je suis vide. J'ai besoin d'autre chose, mais c'est à ce royaume-là que je veux appartenir. Si vous lisez le texte, là, quelques instants plus tard, on voit de l'eau, il se fait baptiser, il accepte Jésus, alléluia ! Sa vie est changée, sa vie est transformée, parce que, eh bien, il y a une oasis dans le désert, parce qu'il a réalisé eh bien, que ce Jésus eh bien, était capable eh bien, de l'affranchir de ses souffrances. Ça n'a pas changé son passé. Ça n'a pas changé sa souffrance, ça ne l'a pas transformé même physiquement, mais ça a changé toute sa vie. Il est entré dans une dimension nouvelle, eh bien, qui est réelle, qui existe, l'amour de Dieu, alléluia, avec un royaume qui ne finira pas. Et les historiens, certains d'entre eux, affirment que cet Éthiopien-là a été l'apôtre de l'Éthiopie. L'apôtre de l'Éthiopie. Pourquoi ? Parce que l'Éthiopie est un pays qui fait partie des premiers à avoir reçu eh bien, la parole de Dieu, l'Évangile. Et certains disent, peut-être par sa position, eh bien, il a été un homme eh bien, qui a été influent pour permettre la diffusion du message de l'Évangile. Alléluia ! Amen ! Comme quoi, par les souffrances d'un homme eh bien, qui a découvert Jésus, eh bien, un pays entier a été béni, amen, parce que cet homme a été guéri dans son âme. Il a été aimé malgré eh bien, son sentiment eh bien, de rejeter, de mépris qu'il avait sur lui. Mais le Seigneur m'aime, alléluia, il fait de moi un enfant de Dieu, alléluia, amen. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La victoire sur les souffrances par Jésus-Christ, amen. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler. Et pour tout cela, nous comprenons, mes frères et sœurs, qu'on a besoin aussi que notre esprit... Eh bien, puisse s'ouvrir. L'Écriture nous dit, je le répète dans Luc 24, verset 45, il nous est dit, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il fallait qu'ils souffrent. Il fallait que Jésus souffre. Il fallait qu'il passe par là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est passé par des souffrances par lesquelles tu peux passer pour te donner les victoires sur les souffrances que tu vas rencontrer. Je le répète. Je ne le souhaite pas d'être trahi, abandonné, méprisé ou quoi que ce soit, mais je ne peux pas vous dire que ça ne va pas arriver. Je ne peux pas vous dire qu'un chrétien ne va pas se trouver dans une situation au travail où il va être mis au placard, peut-être certains l'ont déjà vécu. Tu as parlé de Jésus, on t'a mis au placard, ou dans le quartier, voilà, il va encore te casser les oreilles, celui-là, voyez. Et je ne peux pas te dire que ces choses ne pourront pas arriver, mais je veux te dire ceci, c'est que tu peux avoir la victoire sur les souffrances que tu peux traverser parce que le Seigneur les a toutes rencontrées et il en a triomphé, alléluia ! Et nous voulons dire merci au Seigneur. Je fais une petite parenthèse pour vous dire, c'est pour ça que Dieu s'est fait homme, qu'il est venu sur cette terre pour souffrir à ta place, pour t'ouvrir le chemin, alléluia, et te donner la victoire. Amen ! Gloire à Dieu ! Je voudrais avancer et... dire que le Seigneur nous donne la victoire sur la souffrance spirituelle. La souffrance spirituelle, qu'est-ce que c'est la souffrance spirituelle ? Alors on va aller pour cela dans le livre de Job, au chapitre 8e. S'il y a quelqu'un qui a souffert, c'est Job. Bien alors, il a souffert non seulement physiquement, émotionnellement, affectivement, tout ce que vous voulez... Cet homme, c'était une plaie, on aurait pu dire, mais sa souffrance, quand même, elle était aussi spirituelle. Voilà un homme qui est pieux, voilà un homme qui marche avec le Seigneur. Quand ses enfants se réunissent pour se réjouir ensemble, ses fils et ses filles, après qu'ils se sont réjouis, ils prient Dieu, ils font des sacrifices à Dieu pour dire, mais s'ils ont péché, si ! Parce que je suis persuadé que les enfants étaient à l'image de leur père. Bien, Seigneur, pardonne-leur. Voilà la façon d'agir. Un homme pieux qui était Job. Et voici que le malheur l'atteint. Il perd tout, il perd le travail. Vous connaissez l'histoire, hein, la santé, la famille. Ses enfants meurent. Et voilà ce qu'on lui dit. Au chapitre 8, un certain Bildad, un de ses amis, entre guillemets, hein, je dis un ami parce que quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis, hein. Et alors il se plaint, Job, qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Il a perdu tous ses enfants, les fils et les filles, il est malade, il souffre, il ne dort pas la nuit, il veut trouver le jour, c'est épouvantable, sa femme ne l'aide pas trop. Et il y en a un qui lui dit, jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte ? Parce qu'il se plaint, bah, c'est normal, quelqu'un qui souffre, il se plaint, oui ou non ? C'est normal, écoutez, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui réjouissent, mais pleurez avec ceux qui pleurent. Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte ? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux ? Dieu renverserait-il le droit ? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice ? Si tes fils ont péché contre lui, les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure, etc., etc. Et il est en train de développer qu'en réalité... Si il lui arrive tous ces malheurs, c'est parce qu'en quelque sorte, il le mérite. Il le mérite. Tu souffres parce que tu le mérites. Et je voudrais vous dire, nous on connaît l'Écriture, on sait ce qui s'est passé. En réalité, l'auteur des souffrances de Job, ce n'est pas le Seigneur, C'est le diable. C'est le diable. Et il n'est pas persécuté, il ne souffre pas parce qu'il a fait du mal, il souffre parce que justement il est fidèle. Et que le diable s'emploie à le faire tomber. Et là, il y a une mécanique terrible, parce que vous et moi, depuis l'enfance et même notre justice établit ceci. Celui qui est digne de châtiment doit être puni. Voilà. On ne récompense pas celui qui fait le mal. Au contraire, on le châtie. Et c'est la justice. Et lorsque nous recevons, nous, une peine, une souffrance, automatiquement, on a cette logique. Et certains vont dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Vous vous souvenez, hein ? Bon, voilà. Il y a ce genre de réflexion. Et imaginez le harcèlement moral, spirituel. Il y a non seulement une souffrance, j'allais dire physique, affective, je l'ai dit, familiale, mais également une souffrance spirituelle. Mais Seigneur, c'est toi qui m'afflige ça. Mais je croyais que tu m'aimais. Mais je croyais que tu étais bon. Je croyais que tu étais un Dieu d'amour. Et tu te plais, moi, petit grain de poussière, à m'enfoncer. Et d'autant plus qu'on argumente. Hein. Et ça vous est jamais arrivé ? À l'intérieur, là ? Tac, 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 tac. Quand la mécanique se met en marche, qu'on n'arrive plus à l'arrêter, etc., etc. Mais je voudrais vous dire que comment est-ce qu'on sort de cette... Il faut encore une révélation, une action du Saint-Esprit. Et dans le livre de Job, il y a des éclairs, des fulgurances qui sont extraordinaires, et notamment, vous la connaissez, dans Job au chapitre 19 et au verset 25. Là, il ne faut pas se lasser de lire de tel texte, tel passage. Il dira ceci, et même au verset 23, « Je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer, avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Alléluia. Et au travers de ces souffrances, pour moi, là, on voit une action de l'Esprit qui lui révèle. Écoute, tu es en train de souffrir, mais tout ce que tu es en train d'entendre, n'y prête aucune attention parce que je suis avec toi. Alléluia. Je suis ton avocat. Alléluia. Je suis là pour te délivrer. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin. Alors bien sûr, si tu as fait quelque chose de mal, c'est normal que tu récoltes la conséquence de tout cela. Je voudrais te dire, si tu te sens mal par rapport à un frère et une sœur, mais va lui demander pardon, parce que tu sais dans le fond que tu as besoin de te réconcilier. Si tu te sens mal dans ta conscience parce que sur ta fiche de paye, c'est bizarre là, j'ai rien dit, mais la prime elle m'était pas destinée, mais... Ça me fait du bien quand même. Ouais, mais ta conscience, elle travaille. Sois honnête, alléluia, et rembourse et rétablis les choses. Mais lorsque nous marchons, lorsque nous sommes des enfants de Dieu, que nous marchons avec le Seigneur, nous ne voulons pas ignorer que nous avons un adversaire, le diable, qui est comme un accusateur et qui va essayer toutes sortes d'entreprises pour miner notre foi et nous faire croire que, en réalité, nous ne sommes pas si pieux que ça, nous ne sommes pas des enfants de Dieu qui sont à la hauteur. Mais je voudrais te dire ceci, le Saint-Esprit veut agir dans ta vie, alléluia, et te renouveler. Et comme il est écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, qui décrit toute l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies, et au verset 15, il est écrit ceci, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, pour avoir peur, mais vous avez un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Alléluia. Et mes frères et sœurs, l'apôtre continue, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Et il est en train de dire, c'est pas parce que tu souffres que tu n'es pas un héritier, c'est pas parce que tu souffres, c'est pas parce que tu rencontres des injustices que Dieu est en train de te punir, mais tu as un adversaire qui est en train de t'empêcher d'avoir accès à cette bénédiction, à cette victoire, alléluia, à cette grâce. Et nous avons besoin d'être forts, et tu as besoin de dire, Seigneur, j'accepte les souffrances, j'accepte d'être mal jugé, d'être mal compris, mais je n'accepte pas, Seigneur, de considérer, même dans mon cœur, que si je souffre, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Ça, je ne le tolère pas. Et mes frères et sœurs, en préparant ce message, j'ai vu que dans l'Écriture, il y a un homme de Dieu qui s'est attelé à cela. C'est l'apôtre Paul. Alors, un tempérament. Hein. quand dans la ville de Philippe. Vous connaissez l'histoire dans Acte 16? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Dans la ville de Philippe, Paul prêche. Il y a une fille là qui est possédée d'un démon. Il est fatigué, elle lui fait une pub. Imaginez le médium qui nous fait de la pub. Ça ne va pas. Alors, il chasse le démon, la fille est libérée, mais on jette Paul et Silas en prison parce que les propriétaires, il y avait de l'esclavage, les propriétaires de la fille, eh bien, ils gagnaient de l'argent parce que c'était une voyante. Alors, ils perdent tout leur espoir parce que, voilà, le démon est chassé. Et eux, on les jette en prison. Sous-entendu, ils ont fait du mal. Comprenez ? Ils sont jugés. Et puis, bon, je passe sur certains détails parce que dans cette nuit en prison, il va se passer bien des choses. Le Seigneur va se glorifier. Et le lendemain, les magistrats de la ville envoient des messagers, des huissiers, pour faire libérer Paul et Silas, parce que dans le fond, ils ont bien compris qu'ils n'ont rien fait de mal, quoi. Hein. Et alors là, c'est là que l'apôtre Paul manifeste quand même, j'allais dire, une sainte colère. Vous savez ce que c'est une sainte colère ? Et dans Acte, je l'ai dit, dans Acte 16 et au verset 37, il dit « Après nous avoir battus de verges, de bâtons, hein, publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir en secrètement, il n'en sera pas ainsi, qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Ce n'est pas un caprice. Hein. Ce n'est pas un caprice qu'il est en train de faire. Il est en train de dire « On nous fait passer pour ce qu'on n'est pas. » Et autour de lui, il y a des jeunes chrétiens. Il y a Silas, il y a Timothée, il y en a. Et il dit Mais je ne veux pas être considéré comme un malfaiteur. Il va faire jouer les lois eh bien, qui régissaient l'Empire romain. Lui-même était romain. Et pour leur faire comprendre eh bien, que la souffrance, oui, mais ce n'est pas parce que je souffre que je suis coupable. Je suis coupable de rien. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia, amen. Et je voudrais te dire ceci. Mais ça te libère quand bien même tu souffres. Bien sûr qu'il y a des combats, mais vous êtes prêt à souffrir. Vous avez déjà souffert. Vous avez pu souffrir dans votre travail, souffrir pour. Mais, c'est normal. Mais il y a des souffrances qu'on veut rejeter en disant, mais Seigneur, moi, je suis ton enfant et tu n'es pas contre moi, tu es pour moi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, bien sûr, en conscience, on reste sur le droit chemin. Amen. Vous êtes OK ? Alléluia. Amen. Je dis cela en pensant, et Guillaume les a connus à Grenoble, à des bien-aimés qui sont passés par des souffrances terribles. Et je crois vous en avoir parlé, d'un jeune couple qui attendait un bébé, qui avait prié pour l'avoir, c'est terrible ça. Et 3 jours après la naissance, il est mort. Erreur d'une sage-femme. Elle n'a pas fait exprès, hein, mais erreur. Imaginez. Et j'étais chargé de faire les obsèques. Un petit bébé de quelques jours, il voulait que ça se fasse dans la simplicité, sous un soleil froid d'hiver. Et que dire, que faire ? Quand on ne sait pas, on se tait. Hein. Mais il y a quand même des questions auxquelles le Seigneur répond. Et je me souviens, le Seigneur, à mon sens, m'a inspiré. Dans Romains 8, 31, « Que dirons-nous à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Tu traverses cette épreuve, tu souffres. » Mais Dieu n'est pas contre toi. Et il nous est dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus s'il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Amen, alléluia. Mais lorsque on est... Eh bien, rempli de son esprit, lorsqu'on laisse le Saint-Esprit agir, cette souffrance spirituelle, mais elle est vaincue au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, tu ne m'as pas dit que ça serait un chemin de pétales de rose, mais tu m'as dit que tu serais avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je peux compter sur toi. Et quoi qu'il en soit, on est victorieux. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais continuer. C'est bon ? C'est moitié bon. Non, c'est bon. Gloire à Dieu. Mais on va terminer, il y avait un autre point, peut-être qu'on l'abordera. Il y avait beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Mais la victoire sur la souffrance, j'ai appelé cela la souffrance ressentie. Qu'est-ce que c'est la victoire sur ce que... Parce que ce que l'on ressent ne correspond pas toujours à ce qui est. Et parfois, on peut ressentir certaines souffrances, nous pouvons passer par certaines situations qui nous font oublier un contexte plus général. On est pris par une situation tout à fait personnelle, qui nous touche personnellement, on en fait une affaire personnelle, alors que le Seigneur, lui, a plus de hauteur. Et parfois, on souffre inutilement de certaines choses. Je ne vais pas dire encore une fois qu'il n'y a pas, à la base, une souffrance qui existe, mais s'ajoutent des souffrances qui n'ont pas lieu d'être. Et dans l'Écriture, on voit l'exemple d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu, certainement, est plus valeureux que vous et moi. Je veux parler de Jean-Baptiste. Et dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 7e, nous le voyons, cet homme, c'est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, Jean-Baptiste. C'est celui qui va identifier clairement Jésus comme étant le Messie. C'est lui qui, lorsque Jésus va venir pour se faire baptiser, va dire « Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi » et pas l'inverse, il s'opposait à ce que le Seigneur se fait. Mais Jésus lui dira « Laisse faire car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste » et Jean ne lui résista plus. Et lorsque Jésus fut sorti de l'eau, eh bien Jean vit l'Esprit descendre sur le Seigneur comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et il dira, mais celui sur qui il s'arrête, eh bien l'Esprit, mais c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avant que je vienne, il existait, mais enfin il a une connaissance de Jésus, du Christ. Et voici que, regardez, au chapitre 7 et au verset 18, le même Jean-Baptiste, riche de toutes ces révélations, eh bien il nous a dit ceci, Jean fut informé de tous les miracles, hein, de toutes ces choses par les disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus. « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé auprès de Jésus, il dit « Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités d'esprit malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu. » Voilà, et il termine « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Et pourquoi Jean-Baptiste est en train de s'exprimer ainsi, on pourrait dire, mais qu'est-ce qui t'arrive Jean-Baptiste, ça ne va pas. Jean-Baptiste se trouve en prison. Il a été mis en prison parce qu'il a fait encore une fois ce qui était bien. Il a dénoncé le péché d'Hérode. Hérode vit une relation adultère, il couche avec une femme qui n'est pas la sienne. Le prophète, il ne s'embarrasse pas. Tu prends la femme de ton frère, ce n'est pas permis. Et alors, ça dure un petit temps. Et puis, finalement, il est jeté en prison, mais il continue, mais quand même, il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis là? Et pourquoi je ne vis pas des vies de victoire? Seigneur, tu devrais me faire sortir de la prison, etc. Je devrais voir des miracles. Et puis enfin, je ne comprends pas, les autres, ils vivent ceci, moi j'ai fait ce qui est bien, et je ne vis pas toutes les victoires que j'aimerais voir. Et peut-être quelqu'un est-il comme ça? Vous savez, des fois, on est heureux des bénédictions que le Seigneur accorde à certains. Ah, je me suis marié, j'ai trouvé un travail. Mais des fois, quand on l'entend et que nous-mêmes, on passe par que le Seigneur te bénisse, je suis heureux pour toi, mais moi, intérieurement, j'aimerais tellement le vivre. Seigneur, je me suis trompé. Et parfois, on arrive à se dire, mais c'est quoi le sens de ma vie? Est-ce que vraiment, je marche vraiment avec toi? Est-ce que je n'ai pas raté quelque chose? Et le Seigneur dit ceci, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. On ne va pas le lire, parce que le temps manque. Mais dans Hébreux, au chapitre 11 et au verset 32, jusqu'au verset 38, vous avez une galerie de personnages bibliques qu'on appelle les héros de la foi. Et vous avez deux catégories. Vous avez celles et ceux qui ont été victorieux par la foi pour triompher de leur maladie, pour triompher de leur souffrance. Il nous est fait des allusions à David, à Gédéon, à Moïse, etc., etc. Ils guérirent de leur maladie, vaillant à la guerre, etc. Et puis, au verset 35, il nous est dit « D'autres furent livrés au tourment, n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison et furent lapidés, sciés, torturés, moururent tués et par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, etc. etc. » Et il nous est dit « Cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage. » Alléluia. Et je voudrais vous dire que quand on remet en perspective les choses, le but, ce n'est pas de voir ou de ne pas voir des miracles. Merci Seigneur pour la foi que l'on saisit pour voir des miracles. Alléluia, il est temps. Mais merci, Seigneur, également pour la foi qui permet de supporter toutes les souffrances. Je ne sais pas quelle est la plus grande. La foi qui saisit le miracle ou la foi qui supporte l'insupportable. Je ne sais pas. Le Seigneur ne nous dit pas. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit dans les moments difficiles ou dans les moments faciles, ce que le Seigneur attend de nous, c'est une seule chose, c'est être fidèle. C'est être fidèle, alléluia. Et alors, quand j'ai intégré ça, tac, il y a une souffrance qui s'en va, il y a un verrou qui saute. C'est-à-dire que, en fait, ma vie, ma marche avec le Seigneur, elle n'est pas fondée par rapport à ce que je ressens, par rapport à moi, Jean-Baptiste, etc., mon ministère ou ma vie de chrétien ou par rapport à ceci, mais c'est par rapport à toi. Seigneur, je veux être fidèle jusqu'au bout, alléluia. Les hommes sont de passage, mais toi, tu restes le même, alléluia. Et on le sait bien, un jour ça va bien, un autre jour ça peut aller un peu moins bien, mais Jésus est le même, alléluia, hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est de cela dont nous avons besoin. Et il me semble que le Saint-Esprit agit également, amen, pour nous communiquer la foi en toutes circonstances. Alléluia, amen. Est-ce que tu as besoin que le Saint-Esprit te renouvelle? Eh bien, te vivifie. Je termine en quelques mots pour dire... La dernière victoire sur la souffrance, c'est sur la souffrance affective. Affective. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, voilà. C'est cette souffrance que l'on ressent et qui est due à l'absence. À l'absence. Jésus l'a rencontré et dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, et je le retrouve pour vous, et au verset 32, chapitre 16 de Jean et le verset 32, il est écrit ceci. « Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. » Voilà la souffrance affective. « Je suis séparé de ceux que j'aime. Je suis séparé de ceux qui m'aiment. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Amen. Gloire à Dieu. « Mais je... » Il nous est dit, hein. Vous serez dispersés, vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul. Alors, cette souffrance affective, eh bien, elle peut avoir plusieurs origines. Un décès, hein, ça arrive. On a, sans parler de décès, une séparation. On a plusieurs jeunes parmi nous, ils ne sont pas en deuil, mais ils ne voient plus leur famille comme ils aimeraient. Il y a un continent qui les sépare, un océan qui les sépare. Il peut y avoir des séparations difficiles. Et on vit des choses parfois qui sont surprenantes. Et c'est pour ça que j'engage les jeunes et les moins jeunes qui veulent se marier, eh bien, de choisir un conjoint qui marche avec le Seigneur. Parce que de nos jours, encore plus qu'auparavant, eh bien, si on n'a pas en commun la foi, mais les divorces... Ça va, et il y a des brisements, il y a des choses qui sont comme cela. Mais quelle déclaration! Et on peut pas empêcher en même temps que, chers frères, chères sœurs, on ne vive pas des temps de séparation. C'est pas possible. On s'aime les uns les autres. Moi, j'aime être avec vous. On loue le Seigneur et on cherche le Seigneur ensemble. Amen. On a des temps de jeûne et prière. Mais on sait bien que on peut pas éviter des temps de solitude. Des temps où, hier, notre jeune frère Yann nous parlait de cette femme qui gère seule un problème, le décès de son fils. Vous savez, la femme de Tsunamite. Et elle ne s'appuie pas sur son mari, elle ne s'appuie pas sur le serviteur. Elle s'appuie uniquement sur le Seigneur au travers de l'homme de Dieu. Et quand on lui demande qu'est-ce qui se passe, tout va bien. Tout va bien. Elle, son appui, c'est le Seigneur. Et parfois, je ne suis pas seul. Je ne suis peut-être pas compris. On ne comprend pas mes souffrances, mes, etc., etc. Mais je ne suis pas seul. Et mes frères et sœurs, en ce qui nous concerne, le Seigneur nous a laissé un autre consolateur afin qu'il soit éternellement avec nous. L'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que vous le laissez agir dans votre vie? Alléluia. Est-ce que vous le laissez, eh bien, vous réconforter? Est-ce que vous avez de ces temps, eh bien, où dans la prière, dans la communion avec lui, vous laissez le Saint-Esprit agir, vous remplir au travers de sa parole, vous parler, vous sonder, vous ausculter? Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y a un homme qui était, il s'appelait Siméon, il était sur le point de mourir. Il avait reçu cette promesse qu'il verrait le Christ du Seigneur. Il nous a dit, il attendait la consolation d'Israël. Il attendait d'être consolé. Et lorsque l'Esprit le conduisit dans le temple et qu'il reçut Jésus, bébé, pour le bénir, eh bien, il le reconnaîtra et dira, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Alléluia. Mais je crois que là, plus qu'un bébé, le Saint-Esprit veut te révéler la gloire de Jésus. Alléluia. Tu n'es pas seul. Amen. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, dans ton appartement, au travail. Alléluia. Il est avec toi dans la rue, il est avec toi dans le tram. Il ne t'abandonnera jamais. Il est ta muraille, il est ta forteresse, il est ton appui, il est ton surabri, il est ton rocher. Alléluia. À lui soit la gloire. Amen. Et tout cela, mes chers frères et sœurs, eh bien, nous encourage. Et le Seigneur veut te dire, puisque tu es victorieux sur toutes ces souffrances affectives, ressenties, spirituelles, eh bien, tu peux aller plus loin. Tu peux avancer encore, même dans l'épreuve. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen. Alors, on veut relever nos cœurs, nos têtes, en disant, Seigneur, je veux compter sur toi. Amen. Alléluia. Vous voulez bien qu'on prie le Seigneur quelques instants ? Amen. Et qu'on laisse le Saint-Esprit peut-être, avec son huile douce, apaiser les cœurs. Alléluia, cicatriser les plaies. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, te bénissons, Seigneur. Mon Dieu, tu nous vois rassemblés sous ton regard et nous te remercions pour la richesse de la vie de l'Église. Seigneur, pour les enfants, pour tout ce qui va se faire, Noël, etc. Seigneur, mais ce matin, Seigneur, au-delà de tous ces projets, Seigneur, nous voulons un cœur à cœur avec toi.